Bienvenue dans Focus Sahel, en direct de Washington sur VOA Afrique, avec Eric Manirakis.
Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans Focus Sahel, dans ce studio. C'est bel et bien moi, Madou Oumpa, et non, Eric Manirakiza. Bienvenue donc dans Focus Sahel, l'émission qui vous offre une perspective unique sur la région. Chaque semaine, nous explorons les nombreuses facettes de la vie au Sahel. Au sommaire de cette édition, gros plan sur le Tchad et le débat autour de la candidature éventuelle du président de la transition. Près de 3 ans après sa prise du pouvoir, suite à la mort de son père qui a dirigé le pays pendant 31 ans, le général Mahamat Idriss Déby Itno a été désigné le 13 janvier candidat du MPS, Mouvement Patriotique du Salut, l'ex-parti au pouvoir, à la prochaine élection présidentielle. Pour le MPS, son bilan en tant que chef de la transition est positif et il est capable de garantir la stabilité du pays. Mais l'opposition dénonce une succession dynastique qui se préparerait avec la complicité de la communauté internationale. À suivre, le reportage de notre correspondant André Côte Madingar, correspondant de VOA Afrique au Tchad, et l'analyse de Paul Yombo, il est enseignant à l'Université protestante d'Afrique centrale. Nous irons ensuite à Ségou, dans le centre du Mali, où le prix du riz connaît une hausse notable du fait d'approvisionnements insuffisants et à cause de la situation sécuritaire. Le fait marquant de la semaine, c'est le débat au Sénégal sur la date de la prochaine élection présidentielle. 15 des 20 candidats retenus en janvier pour l'élection réclament que l'élection ait lieu au plus tard le 2 avril, date de la fin du mandat du président Macky Sall. Mais le président sortant, lui, dit mener des consultations nécessaires pour l'organisation du scrutin dans les meilleurs délais. Nous en parlerons avec Famake Dembélé. Il est le directeur de la radio Kédougou FM au Sénégal. À suivre enfin le reportage de notre correspondant Alidou Ouédraogo au Burkina Faso, où l'Institut français de Bobo-Dioulasso s'apprête à rouvrir ses portes, fermées depuis le 1er octobre 2022, au lendemain du coup d'État qui a porté au pouvoir le capitaine Ibrahim Traoré. L'Institut avait été vandalisé et partiellement incendié. Merci de vous joindre à nous pour ce voyage de découvertes et d'informations dans le Sahel. Au Tchad, le président de la transition, Mahamat Idriss Déby Itno, a été désigné le 13 janvier comme président d'honneur et candidat du MPS, le Mouvement Patriotique du Salut, à la prochaine élection présidentielle. Cette désignation par les caciques de l'ex-parti au pouvoir fait réagir les acteurs politiques. Au vu de la tension et des menaces terroristes dans la région, certains estiment qu'il est le candidat idéal pour garantir la sécurité des Tchadiens. Pour d'autres, c'est le règne des débits qui se poursuit. André Côte Madingar, correspondant de VOA Afrique, fait le point depuis N'Djamena.
Les caciques du mouvement patriotique du salut, le parti du feu maréchal Idriss Déby Itno, qui a géré le pays pendant plus de 3 décennies, tentent de conserver le pouvoir. Ils ont désigné son fils Mahamat Idriss Déby comme candidat à la prochaine élection présidentielle. Le secrétaire général de la dite formation politique, Mahamat Zen Bada, fait l'éloge de celui qu'il qualifie de champion.
Il faudrait que le laboratoire d'idées produise des idées pour faire ce qu'on appelle demain un projet de société du MPS. Alors, mettons-nous au travail, parce que nous avons une chance. Cette chance s'appelle Mahamat Idriss Déby. Pour moi, je l'appellerai mon fils, mais il est doté d'une faculté. Il est doté de certaines choses que nous n'avons pas.
Les acteurs politiques opposants de Déby père se rappellent de la fin tragique du règne d'un homme qui a géré le pays d'une main de fer pendant des décennies.
La date qui doit marquer notre esprit, c'est le 20 avril 2021. On a voulu présenter un homme comme un surhomme autour duquel la République doit se construire seule. Et le résultat auquel nous sommes parvenus, chacun le connaît.
Maître Théophile Bangoro, candidat de l'Alliance Victoire présenté par l'opposition à la dernière élection présidentielle face au défunt maréchal. Il invite les partis politiques à se mobiliser pour mettre fin à ce plan dynastique qui est en marche.
Le simple fait que la constitution actuelle n'ait pas mis un holà sur ceux qui ont dirigé la transition de se présenter est déjà quelque chose qui donne à cette élection l'ouverture qu'on lui souhaiterait. Mais ce qui me paraît incongru et singulier est que celui-là qu'on a investi jusqu'aujourd'hui n'a pas donné son avis. Et la personne que vous adoubez ne vous a pas donné une réponse. Et vous vous prenez sur vous d'élargir le cercle de soutien qui est là. Moi, je trouve que c'est ridicule même. Maintenant, il appartient aux acteurs politiques de s'organiser de sorte à ce que cette dynastie ne puisse pas perdurer.
Pour Malom Yoboide, conseiller national et membre d'un regroupement des partis politiques qui soutiennent le MPS, se dit satisfait de la gestion de Mahamat Idriss Déby depuis qu'il est à la tête de la transition.
Aspect sécurité, le cas de Bonoura, il a une politique de la main tendue qui a permis aux gens de venir depuis d'eau les politiques militaires. Le Denis, aujourd'hui on parle de la nouveauté, l'accord de Kinshasa qui a fait venir le Premier ministre actuel. Il y a le président Lazina qui est aussi rentré. Donc, nous ne reprochons rien au président Mahamat Idriss Déby. Donc, je ne m'oppose pas à ça. J'attends mon congrès pour le plus des orientations.
La présidente du Parti citoyen du Tchad, Irène Damnoudji, estime que c'est enfin stratège que le MPS a su récupérer l'actuel président de transition pour faire de lui son candidat. Parce que pour elle, il serait difficile à un civil de diriger ce pays.
De toute façon, nous souhaitons avoir un civil à la tête du pays. Mais le Tchad qu'on connaît avec des politicos et un peu des tensions un peu partout, là, ça veut dire que même si un civil vient pour l'instant, là, ça va être compliqué.
Le président du cadre national de concertation des partis politiques, Dr Nasra Dimasingar, ne partage pas cet avis.
Diriger un pays n'est pas question de civil, de militaire ou de qui que ce soit. C'est le sérieux du candidat qui a le soutien populaire. C'est tout. Mais dire qu'il faut que ça soit un militaire, il faut que ça soit un civil avec telle expérience ou avec telle autre, je ne suis pas dans ce débat-là.
Le MPS compte sur la coalition des partis politiques et ex-mouvements politico-militaires qui ont soutenu le oui au référendum constitutionnel du 17 novembre pour assurer la victoire à Mahamat Idriss Déby à cette élection présidentielle. André Kordoma Djengar pour VOA Afrique, N'Djamena.
Merci beaucoup André Kotmadinga, correspondant de VOA Afrique à N'Djamena, au Tchad. André qui est en ligne avec nous depuis N'Djamena justement. Bonsoir André.
Bonsoir Oumfa.
Alors l'éventuelle candidature de Mahamat Idriss Déby Idno fait donc débat au Tchad, mais l'intéressé lui-même, comme on l'a suivi dans le reportage, n'a toujours rien dit officiellement. André, comment expliquer ce mutisme? Est-ce qu'il y a au moins quelques indiscrétions de son entourage sur ses intentions?
Oui, il y a au moins deux raisons qui expliquent donc le silence du dauphin du maréchal Idriss Déby père. La première raison, c'est que il entretient encore ce flou autour de sa candidature parce que il a, selon son entourage, il ne voulait pas donc augmenter la tension au niveau interne, parce que sa candidature a été vue comme un plan dynastique qui est en train d'être mis en place. Et s'il se déclare donc candidat à cette élection, ça va créer donc un mouvement de tension ici au niveau du Tchad. Donc raison pour laquelle il entretient encore jusqu'à aujourd'hui ce flou autour de sa candidature. Deuxièmement, c'est pour ne pas également créer la tension au niveau international, puisque quand il va par exemple accepter d'être candidat, l'Union africaine, qui a déjà donné son avis par rapport à sa candidature, l'Union africaine ne voulait pas qu'il se représente qu'il se présente donc à ces élections. Et si, à quelques mois de cette élection, s'il annonce déjà sa couleur d'être candidat ou d'accepter la proposition du MPS pour conduire le pays après la mort de son défunt père, ça va encore créer des tensions. Troisième indiscrétion, c'est que il tient encore ce silence parce que il ne voulait pas, par exemple, mettre la France qui était Emmanuel Macron qui était venu assister donc aux obsèques de son défunt père, avait dit clairement qu'il n'est pas là pour soutenir le plan dynastique. Et donc, il demande donc à Mamad Kaka, l'actuel président de la transition, de ne pas se présenter également à ces élections-là. Donc, toutes ces raisons réunies, il entretient encore ce flou-là autour de sa candidature pour sortir, par exemple, à la dernière minute. Quand il va rester, par exemple, 2 mois, il va annoncer clairement son intention et ça va peut-être attenuer un peu l'attention.
Oui, alors André Kodmadinga, on l'a suivi, hein, oui. Les raisons pour lesquelles éventuellement Mahamat Idriss Déby entretient le flou sur ses intentions, mais on sait évidemment qu'il y aurait une élection d'ici la fin de l'année. Est-ce qu'il y a un calendrier prévu pour y parvenir? Dans tous les cas, quelles sont les prochaines étapes à franchir avant l'organisation de cette élection?
Oui, justement, le calendrier, c'est plutôt l'ANGE, l'Agence nationale de gestion des élections qui doit proposer et sera validée par le Conseil constitutionnel. Et, loin de tout cela, parce que jusqu'à aujourd'hui, il n'y a aucun signe dans ce sens. Et je vous apprends également que le président, par exemple, de la Cour suprême a été donc attaqué avant-hier, hier matin, à son domicile. Et les autres, les assaillants, ceux qui ont attenté à sa vie, ont continué jusqu'au bureau pour saccager également le bureau du Conseil de la Cour suprême, la plus grande institution juridique au Tchad. Et donc, au niveau même de N'Djamena, il y a des tensions et ces institutions qui sont chargées donc d'organiser ces élections-là n'ont pas encore à proposer un calendrier qui va peut-être permettre à ces candidats, ou soit à ces hommes et femmes qui veulent postuler, donc qui veulent être candidats à cette élection-là, de se préparer.
Merci beaucoup André Kodmadinga, correspondant de VOA Afrique à N'Djamena au Tchad. Et pour poursuivre la discussion, pour une analyse, retrouvons à Yaoundé au Cameroun Paul Yombo. Il est analyste politique, il est enseignant à l'Université protestante d'Afrique centrale. Bonsoir Paul. Paul Yombo, bonsoir, Mamadou. Depuis le Cameroun.
Bonsoir Mamadou.
Voilà. Alors Paul, il y a près de 3 ans, les militaires prenaient le pouvoir au Tchad avec à leur tête le général Mahamat Idriss Déby Itno. Près de 3 ans après, quel bilan peut-on faire de leur action, de la transition, notamment les points forts et les points faibles de cette transition?
Alors comme vous l'indiquiez, et comme votre correspondant l'a dit dans son reportage, le 20 avril 2021, on découvre Mahamat Idriss Déby Itno à la tête du comité du CMT, du fameux CMT. Il nous annonce une transition de 18 mois et parmi le cahier de charge, dans le cahier de charge de la transition, il y a un certain nombre de points qui devraient permettre le retour à l'ordre constitutionnel classique. Dans ces cahier de charge-là, il y a l'organisation d'un dialogue national inclusif, ce qui a été dénommé le dialogue national souverain et inclusif, certains diront avec une certaine ironie, parce qu'on a constaté l'absence d'acteurs majeurs de la société civile, d'acteurs majeurs de la classe politique et d'acteurs majeurs parmi les groupes militaro-politiques qui ont, disons, animé la scène politique tchadienne. Nonobstant cela, le séjour du général Mahamat Idriss Déby a été rallongé de 24 mois. Il a reçu lors de son installation un certain nombre d'acteurs de la scène sous-régionale. Le président nigérian de l'époque était présent, certains représentants des pays de l'Union européenne étaient présents. Et donc ce dialogue-là a abouti à 2 points très intéressant, qui marque la dynamique de cette transition-là. D'une part, la proposition d'une nouvelle constitution qui a été adoptée lors du référendum de novembre dernier. Et ensuite, la possibilité, après dissolution du CMT, que les membres du CMT se présentent à cette élection-là. Et donc, on se rend compte qu'il y a là un bilan politique qui est contesté. L'opposition parle de tentative de succession dynastique, fustige la gestion des droits humains sur le territoire, pointe du doigt la situation catastrophique.
Alors, Paul Yombo, quand les militaires prenaient le pouvoir, ils avaient promis de restituer ce pouvoir-là, mais désormais, le chef de la transition est libre de se présenter selon les recommandations du dialogue national que vous avez évoqué. Alors, est-ce qu'il y a lieu d'avoir des doutes sur les intentions du général Mahamat Idriss Déby? Va-t-il se présenter?
En ce bilan-là, Vous pouvez répéter la question, s'il vous plaît?
Oui, alors, est-ce qu'on peut avoir un doute sur les intentions du général Mahamat Idriss Déby, alors que les militaires avaient promis un retour à l'ordre constitutionnel, comme vous l'avez dit? Est-ce qu'il sera candidat, selon vous? Quelle analyse vous faites du flou qu'il entretient autour de sa candidature éventuelle?
Je pense que depuis avril 2021, on a pu tirer un certain nombre de leçons du comportement de Mahamat Idriss Déby Itno. D'abord, il est particulièrement taiseux. Ça fait partie de sa stratégie, comme vous l'avez indiqué avec votre correspondant plus tôt. C'est une stratégie qui me semble plutôt intéressante. Le président Déby choisit de rendre sa parole d'une part rare et aussi de se positionner stratégiquement en laissant les autres acteurs dévoiler leurs cartes. Donc, mais cependant, je ne pense pas qu'il y ait un doute fondamental sur l'intention du président Idriss Déby Itno. Les voyants qu'on commence à voir s'activer nous mènent tout droit vers une candidature. Le MPS qui se mobilise ne se mobilise pas sans avoir un certain nombre d'assurances venant du président Idriss Déby Itno ou de son entourage. Les rapprochements qu'on commence à voir au niveau international, je pense notamment à ce qui s'est passé avec Tahir Wodji du FACT, qui a été interpellé par les hommes du général Haftar, puis libéré, semble indiquer que le président Déby est en train de s'installer dans une dynamique de pouvoir sous-régional, mais aussi qu'il est en train de tisser sa toile au niveau de la politique domestique. Et s'il faut encore souligner que les rapprochements avec les têtes de proue principaux de l'opposition indiquent vraiment que le président Idriss Déby va se présenter.
À cet effet, vous parlez justement de rapprochement avec des opposants, des principaux opposants. On a Saleh Kebzabo, l'opposant historique, qui est désormais médiateur de la République. On a Succès Masraa, qui est maintenant Premier ministre la transition. Alors, est-ce que vous pensez que le général Mahamat Idriss Déby fera face à une vraie concurrence avec ces têtes de proue qui ont rallié les causes de la transition?
Bon, quand on regarde la structure de l'État du Tchad est le régime tchadien est un régime corporatiste, très fortement corporatiste, avec une présence des militaires partout dans l'appareil. Ça, c'est une première caractéristique qui peut nous indiquer quel est le niveau de résistance auquel il pourrait s'attendre de ces deux figures-là et des autres figures qui ont déjà annoncé leur participation aux élections futures. D'autre part, il faut également souligner que le président Idriss Déby Itno a un certain nombre d'acquis du point de vue de la longévité au pouvoir de son père. Lui-même, il a fait partie dans une capacité plus ou moins importante du régime de son père. Il a ses acquis-là. Et de plus en plus, il commence à développer un discours qui n'est pas forcément riche idéologiquement, mais qui est fort, qui est très impactant au niveau des conséquences en termes d'alliances politiques. Donc si le président des transformateurs, par exemple, Succès Masraa, a pu faire preuve d'une capacité de mobilisation extraordinaire quand il s'agissait de contester la prolongation de la transition, ce qui a abouti à 73 morts, il faut le noter. Il faut dire aussi que son entrée dans l'appareil étatique dirigé par Idriss Déby Itno désamorce quelque peu sa capacité contestataire. Et je pense que c'était ça l'objectif de la manœuvre du point de vue du président, et qu'on peut déjà se dire que c'est partiellement réussi.
Merci beaucoup Paul Yombo, analyste politique enseignant à l'Université protestante d'Afrique centrale. Vous nous répondiez depuis Yaoundé au Cameroun. Et pour terminer sur ce sujet, voici quelques réactions d'internautes sur la page Facebook de VOA Afrique. On a Bonaventure Didier qui dit « S'il se présente à l'élection présidentielle fin 2024, tous les présidents qui assurent la transition en Afrique seront tous candidats à l'élection présidentielle dans leur pays. Si la France veut garder sa crédibilité en Afrique, elle doit empêcher Mahamat Déby de se présenter. Son bilan est négatif. Les Tchadiens souffrent trop. » Il y a Eco Africa qui dit « Comme c'est le candidat de l'Occident et de la France, vous allez dire que son bilan est positif. Les conditions de vie sont devenues plus difficiles. C'est même l'arrivée de Masraa à la primature qui essaye d'alléger les choses. » Las Gasset dit « Le clan Déby continue à régenter le Tchad comme un roi régnant sur un royaume qu'il aurait hérité de ses aïeux. Si le peuple tchadien accepte sa candidature, c'est qu'il a décidé décidé de signer un long bail avec le clan Déby. Et puis Clément Dixia qui dit c'est parce que nous, la population, sommes divisés. Regardez un peu ce qui s'est passé au Sénégal après que Macky Sall ait reporté l'élection présidentielle dont il n'est même pas candidat. Le Conseil constitutionnel a compris le peuple. Ici, nous sommes divisés et les institutions sont partiales. Un grand merci à tous les internautes qui nous ont envoyé leurs commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique. Merci à tous. Le Sahel, une région à la croisée des chemins. Focus Sahel, votre nouvelle émission sur VOA Afrique.
Crise sécuritaire, montée de l'extrémisme et déplacement de populations et influences étrangères, VOA Afrique braque ses projecteurs sur la bande sahélo-saharienne pour vous aider à comprendre les enjeux qui sévissent dans cette région et les événements qui rythment la vie de ces pays.
Retrouvez nos équipes à Washington et nos correspondants sur le terrain pour des reportages, des analyses et des interviews.
Pour tout comprendre sur le Sahel, rendez-vous tous les mardis à 18h temps universel sur VOA Afrique, voafrique.com et toutes nos plateformes digitales.
Rendons-nous maintenant à Ségou, dans le centre du Mali. Là-bas, le prix du riz connaît une hausse notable. C'est ce qu'ont constaté les consommateurs, notamment lors de la foire hebdomadaire dans cette ville située à 240 km de Bamako. Cette augmentation des prix du riz est attribuée à des approvisionnements insuffisants. Malgré des améliorations, la fragilité de la situation sécuritaire inquiète certains commerçants et limite leur approvisionnement dans certaines localités de la région. Reportage de Georges Atino à Ségou.
Il est 16h ce lundi à la foire hebdomadaire de Ségou, à quelques pas des rives du fleuve Niger. La journée de marché tire à sa fin pour les commerçants de riz local, cultivés et hautement appréciés dans la région de Ségou. La scène offre un aperçu animé de l'économie locale et de l'importance du riz dans cette communauté riveraine, comme le dit Sidi Aïdara, commerçant.
Ça, c'est le riz de la ville de Niono, récolté cette année. C'est le riz de chez nous. Ce riz est goûteux et préférable au riz importé.
Le prix du riz est en constante hausse en raison de la réticence de certains commerçants à s'aventurer dans les zones instables sur fond de préoccupations sécuritaires. Aujourd'hui, le kilogramme de riz coûte 400 francs CFA. Kadiatou Traoré, une commerçante avec 2 décennies d'expérience, coût les sacs de riz après une journée de marché de ses ventes.
Je n'ai rien pu vendre aujourd'hui. Le riz coûte cher et nous sommes obligés de partir le chercher loin. On n'ose pas forcément aller dans certaines zones par peur. Ce qui fait qu'on a moins de riz et la situation est de plus en plus difficile.
Abdoulaye Tangara s'active dans le commerce depuis 5 ans. Il témoigne des changements qu'il a constatés depuis quelques années.
Les choses ont beaucoup changé en quelques années seulement. On ne pouvait pas aller au-delà de Markala. Mais aujourd'hui, je pars dans quelques villages en plus. Cependant, aujourd'hui, il y a beaucoup plus de commerçants pour peu de riz. Et en plus de cela, les agriculteurs se plaignent aussi de l'augmentation du prix de l'engrais. Tout cela rend la situation compliquée.
Les clients, eux, font les frais de cette situation.
Nous aimons beaucoup les riz qui nous viennent à Niono. Mais ça coûte cher de nos jours. Ils m'ont dit 400 francs le kilo. Je leur ai dit de laisser à 375 francs. Mais pour le moment, nous n'avons pas trouvé d'accord.
Au marché de Ségou, clients et commerçants espèrent une baisse significative des prix et une amélioration de la situation économique. Georges Atino, de retour de Ségou pour VOA Afrique.
À présent, le fait marquant de la semaine. Au Sénégal, le flou persiste sur la date de la prochaine élection présidentielle. Les Sénégalais qui devaient voter dimanche prochain ignorent quand ils se rendront aux urnes après une séquence inédite depuis l'indépendance, séquence au cours de laquelle le président Macky Sall a décrété le report de l'élection et le Conseil constitutionnel a invalidé sa décision. Pour en parler, retrouvons Famake Dembélé. Il est le directeur de la radio Kédougou FM au Sénégal, une station partenaire de VOA Afrique. Bonsoir,
Famake Dembélé. Bonsoir, Mohamed.
Voilà, le président Macky Sall avait annoncé la tenue de consultation sur une nouvelle date et sur l'organisation de la prochaine présidentielle. Où en est-on avec ces consultations? Quels en sont les échos dans les médias?
Voilà, merci beaucoup pour cette invite dans cette émission très écoutée. Pour revenir à votre question, il faut dire que présentement, le président Macky Sall est à son deuxième jour de consultation avec tous les acteurs, que ce soit les acteurs politiques, que ce soit également les acteurs de la société civile, mais également les chefs religieux et coutumiers. Donc, au sortir de ces deux jours de consultation, parce que c'est ce délai qui s'est donné, pour pouvoir aboutir véritablement à une large concertation avec les différents acteurs avant de se prononcer face à au pays, normalement au-delà des deux jours. Donc, c'est dire qu'actuellement, ils sont en plein parce que les gens, les différentes parties, en tout cas les différents responsables, défilent en ce moment au palais. Parce que même à la lecture des différents journaux, des différents quotidiens parus aujourd'hui, c'est ce sujet qui cristallise la plupart des quotidiens. Il s'agit, n'est-ce pas, de ce qui est des questions de concertation. Donc, en tout cas, c'est une décision prise par le chef de l'État. Et il est engagé à respecter cette décision du Conseil constitutionnel qui, n'est-ce pas, l'autorise, n'est-ce pas, en tout cas, le choix de la dernière de la date pour la prochaine
élection présidentielle. Alors, merci beaucoup, Fama Kedembele, directeur de la radio Kédougou FM au Sénégal. Et on se rend immédiatement au Burkina Faso pour la note positive de cette édition. L'Institut français de Bobo Dioulasso avait été fermé le 1er octobre 2022, au lendemain du coup d'État qui a porté au pouvoir le capitaine Ibrahim Traoré. Vandalisé et partiellement incendié, l'Institut a même été évacué de son personnel. Mais désormais, cet institut, l'un des premiers partenaires culturels de la ville, renaît de ses cendres. Elle s'apprête à rouvrir ses portes pour le grand soulagement de certains acteurs culturels et de la société civile. Reportage Alidou Ouédraogo.
Après un an et demi de fermeture, l'Institut français s'apprête à rouvrir ses portes. Les contours de cette réouverture sont donnés par Judicaël Doli, chargé des communications de l'Institut.
Nous allons commencer déjà par rouvrir le cinéma. À partir du jeudi 22 février, nous aurons donc le cinéma tous les jeudis soirs à partir de 19h pour adultes et les samedis à partir de 16h pour la jeunesse, c'est-à-dire les enfants. Donc nous essayons de reprendre petit à petit les choses.
Les amateurs de la grande scène, eux, devront patienter, dit Judicaël Doli.
Nous délocalisons certaines activités vers des structures partenaires. Ça ne sera pas que les concerts, même les expositions. Nous travaillons avec le musée communal de Bobo Dioulasso sur Gossela Sano pour les expositions.
Et pour marquer cette reprise prochaine des activités, l'artiste musicien Djili Karim a présenté symboliquement son nouvel album aux acteurs culturels de l'Institut. Il a parlé de ses regrets concernant l'arrêt des activités de l'Institut.
Nous, les artistes et les mélomanes et les promoteurs, vraiment, tout le monde sait que vraiment, le temps que c'est fermé jusqu'à aujourd'hui, on est vraiment regretté.
Alexandre Diafodé Kaba est acteur culturel et membre de la société civile.
S'attaquer à l'Institut français, c'est une grosse erreur, parce que c'est un lieu de promotion culturelle. Et aussi, ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a des instituts français dans tous les pays du monde. Il y en a partout, il y en a aux États-Unis, il y en a en Ukraine, il y en avait en Russie, à Moscou, bien avant le début de la guerre en Ukraine. Il y en a partout, il y en a en Chine, il y en a même jusqu'à deux en Chine. Donc c'est pour dire qu'il faut qu'on quitte dans cette politisation de tout.
Diafoli appelle les uns et les autres à la compréhension.
Ils comprennent que l'Institut français n'est pas un instrument de néocolonialisme ou un instrument d'esclavagisme ou un instrument de domination. Mais c'est plutôt un instrument qui soutient la promotion culturelle. Et nous, en tant qu'acteurs culturels, il faut qu'on arrive à défendre cela, il faut qu'on arrive à montrer ça aux yeux du peuple.
Issa Guiraud est animateur de spectacle. Il appelle à protéger l'Institut qui œuvre selon lui au développement de la culture.
Alors je pense que ce sont ces gens de lieu-là qui, dorénavant, si l'histoire doit se répéter, que nous devons vraiment effacer et protéger de surcroît.
Même son de cloche pour l'artiste Djili Karim.
Je peux dire que ce n'est pas pour les Français, c'est pour nous-mêmes. Parce que c'est où? C'est au Burkina. Ici, c'est Bobo Dioulasso. C'est nous les jeunes, on travaille dedans. C'est nous les artistes, on travaille dedans.
Merci beaucoup Alidou Ouédraogo pour ce reportage et c'est la fin de cette édition de Focus Sahel. Merci d'avoir suivi sur nos réseaux sociaux et sur nos stations FM et partenaires. À très bientôt sur ces mêmes antennes. Au revoir.